On reste à l'étranger, mais ça n'est plus du tourisme. La revue de presse internationale. Bonjour Thomas Cluzel.
Bonjour,
et ce matin, les prières, ça ne suffit pas.
Oui, voilà l'un des nombreux slogans entendus hier aux États-Unis, un mois jour pour jour après la tuerie dans un lycée de Floride à Parkland. Des dizaines de milliers d'élèves avaient tous décidé de quitter leur classe au même moment pour non seulement rendre hommage aux victimes, mais aussi exiger du gouvernement des mesures concrètes contre les armes à feu. Une manifestation nationale donc qui, du Maine à la Californie, a débuté partout à 10h du matin et duré 17 minutes, soit une minute pour chacune des 17 victimes de la fusillade. Quand certains racontent ce matin la chaîne CNN avait décidé de prononcer le nom de chaque défunt, d'autres ont préféré se tenir en silence autour de 17 chaises atrocement vides. Dans un lycée de Los Angeles, là, des élèves avaient eux choisi de s'allonger minutieusement sur la pelouse du terrain de football pour y former un mot, plus exactement les 6 lettres du cri de ralliement de cette manifestation, Enough, assez. Et puis dans de très nombreuses écoles du pays, les élèves ont finalement décidé de prolonger le mouvement, parfois d'ailleurs au-delà du strict cadre de l'école, comme par exemple à Washington devant la Maison Blanche, et ce, peut-on lire toujours sur le site de la chaîne américaine, dans une démonstration de solidarité historique. Alors sur de très nombreuses pancartes, on pouvait lire notamment ces mots, les pensées et les prières n'arrêtent pas les balles. Et ce d'autant plus, rappelle de son côté le magazine américain Rolling Stone, que pas plus tard que dimanche, le président lui-même a finalement fait volte-face après sa surprenante promesse d'instituer des lois plus strictes sur le contrôle des armes à feu. Donald Trump a fini par s'aligner au contraire sur la ligne défendue par le tout-puissant lobby de la NRA, armement des enseignants et maintien à 18 ans de l'âge minimal requis pour se procurer une arme à feu.
Et là-bas non plus, 7 ans jour pour jour, ce jeudi après le début de la guerre en Syrie, les prières ne suffisent pas, Thomas.
Oui, il y a encore quelques années, Stephen Hawking, le célèbre physicien décédé hier, décrivait ce qui se passait en Syrie comme une abomination que le monde regarde froidement à distance. Et de fait, écrit ce matin The Los Angeles Times, c'est ce qui est arrivé à la Syrie, devenue l'emblème de la misère humaine à travers un conflit marqué ce jeudi, donc par son 7e anniversaire. La crise qui avait commencé dans la foulée des soulèvements du printemps arabe s'est désintégrée dans une guerre civile infernale qui a tué des centaines de milliers de personnes. On parle aujourd'hui d'environ 500 000 morts, même si les Nations Unies ont arrêté depuis bien longtemps déjà d'additionner les chiffres. À cela, il faudrait pourtant encore ajouter des centaines de milliers de blessés, mais aussi 22 millions de déplacés, soit plus de la moitié de la population du pays d'avant la guerre. En ce sens, le conflit syrien a donc montré la faillite morale et la lâcheté de la communauté internationale. Le pays tout entier est devenu un vaste champ de bataille pour puissances à la fois régionales et mondiales qui essayent essentiellement de s'emparer du plus grand territoire possible afin de maximiser leurs intérêts. Plus personne ne se soucie véritablement de gagner cette guerre, mais personne ne veut non plus la perdre. D'une certaine manière, le conflit syrien a donc redéfini ce qui était permissible en temps de guerre. Et le quotidien de préciser encore, la Syrie a remodelé les alliances et contribué à rouvrir les portes de l'ère de la guerre froide.
Et la guerre froide, justement, il en est encore question ce matin avec les suites de l'empoisonnement de l'ex-espion au Royaume-Uni, et Thomas.
Cold War 2, guerre froide 2, le titre barre ce matin la une du Daily Mirror après que la première ministre britannique a annoncé hier l'expulsion d'ici une semaine de 23 diplomates russes du Royaume-Uni qui seraient en réalité, je cite, des agents de renseignement. Il s'agit là de la plus sévère expulsion groupée depuis plus de 30 ans, note pour sa part The Guardian. Les menaces de sanctions de Londres ont donc été mises à exécution, sans surprise d'ailleurs, puisque Moscou n'a pas jugé bon de fournir d'explications quant à l'utilisation sur le sol britannique de ce poison fabriqué uniquement en Russie. Le dédain complet avec lequel Moscou a traité notre demande d'explication démontre la culpabilité du gouvernement, a notamment déclaré sans équivoque hier Theresa May. Alors peut-être ne pourra-t-on finalement pas prouver que ce crime est directement lié au Kremlin, mais à des agents indépendants agissant pour son compte ou à des responsables de la sécurité qui veulent aggraver la discorde russo-britannique pour des raisons intérieures. Est-ce que c'est pour cette raison que des sanctions ciblées sont bien la solution, tranche The Times. Alors de quelles sanctions parle-t-on? Theresa May menace de saisir les actifs britanniques d'oligarques proches du Kremlin. Et puis aucun ministre britannique ni aucun membre de la famille royale n'ira à la Coupe du Monde de football organisée cet été en Russie. Pour autant, précise le correspondant à Londres du Temps, le gouvernement a bien conscience que ces mesures risquent d'être insuffisante pour vraiment avoir un impact sur Moscou. C'est également l'analyse défendue par le correspondant du Guardian à Moscou, cette fois-ci, lequel prédit à son tour que ces annonces ont peu de chances d'impressionner le Kremlin, dont la réaction, dit-il, ne devrait guère aller au-delà d'un simple haussement d'épaule.
Enfin, on termine avec un haussement de sourcils en Chine.
Oui, l'histoire est racontée sur le site Big Brother du Monde. Oubliez, dit-il, les insultes, remisez au placard vos doigts et autres bras d'honneur, le summum de l'irrévérence joue parfois un petit rien, en l'occurrence, un regard peut s'avérer plus efficace que n'importe quelle prise de parole courroucée. La scène s'est déroulée mardi lors de la conférence de presse du ministre chinois du Commerce. Une journaliste l'interroge et le moins qu'on puisse dire est que la très longue question frôle la courtisanerie. À ses côtés, une consoeur qui travaille pour The American Multimedia Television s'impatiente et finit donc par laisser éclater son exaspération à travers un roulement des yeux très théâtral. Alors l'histoire aurait pu s'arrêter là, sauf que le web chinois a repéré la scène et s'en est gossé sur le gigantesque réseau social Weibo, équivalent de Twitter en Chine, au point de faire de la journaliste une icône rebelle. Sauf que depuis, précise le site Free Weibo, la recherche via le nom de la journaliste ou le terme afférent, Question Asking Bitch, qu'on évitera de vous traduire, ont été étrangement bloqués.
Merci beaucoup Thomas Cluzel, on retrouve votre revue de presse internationale sur le site de France Culture, franceculture.fr.